Sì, voglio andarci là. Cioè, dici che togli la mezzù, fai le guardie. Ma come togli il mezzù?
Ma è che è qua.
E che è la cagalla esci?
Non ci sono.
On a la sensation ici, Christophe Canu, de s'être glissé sur un lieu de travail assez intime. Les gens sont à l'ouvrage.
On est au plus près des livres et des anciens livres, puisqu'on se situe dans l'atelier d'Andrea Giovannini. Son atelier est spécialisé dans la restauration des livres anciens, parce que qui dit archive dit problème de restauration. Donc il n'y a pas d'archive sans restauration. Et en Suisse, nous avons la chance d'avoir l'un des plus prestigieux restaurateurs européens en la matière. Andrea Giovannini habite au Tessin et j'ai eu la chance de pouvoir aller le voir dans son atelier qui se situe à Lumino, commune qui jouxte Bellinzone.
Ça, c'est un tout petit travail, mais c'est une intervention qui est tout à fait minimale qu'on nous a demandé comme ça. Il s'agit simplement de protéger le début d'un livre qu'on pourrait restaurer d'une manière un peu plus approfondie, de le protéger avec une feuille de papier de garde pour pas qu'il soit abîmé. Ce livre n'a plus sa couverture entière et il sera protégé par une boîte. C'est un type d'intervention qui est tout à fait minimale, mais qui est compatible avec les archives dans lesquelles ce volume est conservé, ou pratiquement, la consultation est zéro, ce volume sera scannerisé, il n'y aura que le scan qui sera utilisé. Et donc on peut se contenter d'intervenir d'une manière vraiment extrêmement réduite, avec l'avantage financier bien sûr, mais avec alors à ce moment-là beaucoup de précautions de la part des archives qui doivent respecter certaines règles pour éviter que le document s'endommage plus loin.
Il date de quelle époque ce document?
Oh, ça, pour nous, c'est quelque chose qui est rarissime en fait. Vous tombez sur quelque chose qu'on ne fait pas en ligne de principe, parce que le 19e siècle, pour nous, c'est quelque chose qu'on ne touche jamais. Mais bon, on nous l'a demandé, on l'a fait parce que cette mentalité de service est importante. Mais en principe, l'autre domaine de travail est plutôt. Ici. Là, vous avez toute une série. Voilà, c'est ce que vous voyez ici. Ça, c'est les parchemins. Et ça, c'est l'activité principale. C'est aussi la spécialité de l'atelier. Ce sont des parchemins qui sont très très simples. Donc, ce sont des actes de notaire. Dans ce cas, c'est des documents tessinois. Bon, c'est un travail qu'on fait pour toute la Suisse, mais dans ce cas, c'est des documents tessinois qui étaient en assez mauvais état. Et on voit des diverses lacunes. On voit qu'elles ont été rongées par des insectes à la surface, mais aussi en formant des lacunes.
Il date de quand?
C'est le 15e siècle. Bon, là, on est en plein dans nos périodes. Donc, on travaille en principe entre le 8e et le 16e siècle. C'est la période centrale de l'activité de l'atelier. Et vous remarquez sur ce document, on n'a pas comblé toutes les lacunes. Là, on voit bien. Qu'est-ce qui signifie l'intervention minimum? Du moment où une lacune comme celle-ci a des bords qui sont stables, finalement, bon, elle n'est peut-être pas belle, mais ça c'est l'histoire du document, mais il n'y a aucune raison de la combler. Si c'était un objet qu'on expose, un objet qui va dans une vitrine d'un musée, bon, il y aurait aussi un souci esthétique. Mais comme ce sont des documents qui sont destinés simplement à la lecture dans des archives, et qui où le but de la restauration est simplement de les conserver, on se contente vraiment d'une intervention minimale. Alors on comble les lacunes qu'il faut combler.
Ce que vous appelez lacunes,
ce sont
des petits trous.
Oui, ce sont des trous de lacunes, bon, c'est des trous de toutes sortes de dimensions. Là, vous en voyez des plus gros. Là, c'est des souris qui ont rongé le document. Ici, ce sont des insectes qui ont rongé le document. Bon, la difficulté quand on veut combler des trous, comme vous dites, dans des parchemins, c'est que le parchemin n'est pas une matière uniforme comme le papier. C'est-à-dire que le parchemin est une peau animale. Alors je vous cherche peut-être une pièce où cela se voit. Ici, ça se voit déjà assez bien. C'est-à-dire que vous avez une échine, ici, au milieu de la peau. Ça, c'est la partie arrière. Cette partie un peu transparente, ce sont les os des pattes arrière de l'animal. Et ici, donc, c'est le collet. Ici, c'est la patte avant. Et bien sûr, le parchemin n'a pas la même structure près d'une patte que sur le collet ou qu'au milieu du dos. Et dans les tiroirs que vous avez là, vous trouvez de vous voyez des dizaines de parchemins de toutes sortes d'épaisseurs. Et les parchemins qui se trouvent dans les couches supérieures sont tous découpés parce que pour combler une lacune dans le parchemin, il faut trouver la bonne épaisseur au bon endroit sur la peau et le découper. Donc il faut choisir le bon parchemin, le découper et ensuite adapter les deux parties et les coller ensemble avec de la vessie d'esturgeon. De nouveau, une colle, ça paraît un peu folklorique à dire comme ça, la vessie d'esturgeon, mais ça s'appelait ictiocolon. Et c'est une colle qui a été utilisée dès le Moyen-Âge et dont la stabilité chimique a été vérifiée sur les siècles.
C'est-à-dire que dès le Moyen-Âge, on cherchait déjà à réparer, à restaurer les documents ou à les préserver ?
Ah bien sûr, bien sûr. Les documents étaient réparés de tout temps avec des interventions qui parfois ne sont pas mauvaises, pas forcément mauvaises. Si dans 200 ou 300 ans, on va dire de notre travail d'aujourd'hui, ce que je dis du travail de certains collègues du Moyen-Âge, c'est-à-dire, c'est un peu grossier, mais finalement, ça tient, et c'est bon, et c'est fonctionnel, je trouve qu'on aurait eu un très très grand succès. Alors effectivement, nous, on trouve des réparations médiévales qu'on laisse, qu'on ne touche absolument pas, même si elles sont peut-être pas très belles, du moment où elles ne couvrent pas le texte, et du moment où elles sont fonctionnelles, ça fait partie de l'histoire du livre, il faut les mettre en valeur, et se rendre compte qu'elles ont quelque chose à nous raconter, et pas du tout les détruire. D'ailleurs, la Suisse est un pays très très privilégié sur ce plan, parce que n'ayant pas eu de monarchie et de bibliothèque royale, on a des fonds médiévaux qui sont extraordinairement bien conservés dans leur état original. Alors que si nous allons en France, nous avons la Bibliothèque nationale à Paris, nous avons des manuscrits merveilleux, les parchemins sont magnifiques, mais il n'y a presque plus de reliures originales, parce que les rois ont tout le temps adapter les reliures à l'esprit de l'époque, ils les ont fait relier. C'est des belles reliures à voir comme ça, mais un chercheur, un spécialiste ne peut que pleurer la perte de la reliure originale avec toute l'information qu'elle aurait pu nous livrer. Alors la Suisse est un paradis sur ce plan-là. Il y a vraiment des trésors et des trésors encore inexploités dans des bibliothèques pourtant connues comme les bibliothèques universitaires. Alors ici, j'ai un incunable, c'est-à-dire un imprimé d'avant 1500, mais qui a une reliure qui est très très particulière, dans le sens que c'était une reliure très très pauvre de l'époque. C'était une reliure d'études. C'est en fait des capucins, c'est la reliure qu'ils utilisaient pour leur volume, qui était réduite à un minimum. Ils n'utilisaient pas les livres comme une démonstration de richesse ou de prestige, mais simplement comme outil. Et ils voulaient être pauvres aussi sur ce plan-là. Pour nous, ce sont aujourd'hui des reliures qui sont très très intéressantes, qui racontent justement quelque chose de l'histoire du livre qui ne se trouve pas dans le texte, mais qui se trouve justement dans la reliure. Et cette dimension d'étudier les aspects matériels, les caractéristiques matérielles d'un objet avant de le restaurer, quelque chose de très important pour ne pas risquer de modifier des éléments qui racontent quelque chose sur le livre et que simplement on ne reconnaît pas parce qu'on n'a pas pris le temps d'étudier l'objet. Donc il y a cet aspect d'étude qu'on appelle l'étude codicologique ou d'archéologie du livre qui est fondamental, surtout avec le manuscrit médiéval, parce que le manuscrit médiéval nous livre énormément d'informations à travers simplement sa structure, la structure des cahiers. Est-ce que tous les cahiers sont réguliers? Est-ce qu'ils ne le sont pas? S'ils ne le sont pas, pourquoi? Est-ce que c'est une volonté dès le départ? Est-ce qu'il y a eu des modifications? Et tout ce qui permet de voir l'activité du scriptorium, donc la réglure dans les lignes qui ont été tracées pour faire la mise en page, aussi la structure de la reliure, donc la couture, les supports, où est-ce qu'on peut les voir? On peut les voir un peu ici. Voilà, les supports en cuir de la couture, le passage de ces supports en cuir à travers les plats en bois, les tranches-files, la structure des plats eux-mêmes, le cuir. Tous ces éléments-là nous fournissent des informations qui sont complémentaires à celles du texte et qui donnent une image de l'objet qu'il faut absolument avoir compris avant d'entreprendre quoi que ce soit. Ce livre est pratiquement terminé. Alors là, vous voyez que le cuir a été restauré. Vous voyez que la partie qui manquait a été comblée pour lui redonner sa fonction. On a fait des petites interventions sur le plat, mais qui ne se voit pas. Par contre, ici, vous voyez, ici, il y a le nerf original dans la charnière, et ici, il n'y a pas le nerf original était cassé, il a été remplacé par des fibres de lin qu'on a montées sur le nerf originel et avec lequel on a rétabli la telle entre le plat et le corps du livre.
Il y a des petits trous dans la couverture en bois.
Oui, alors ça, ce sont des insectes xylophages qui, à un certain temps, se sont installés dans ces plats. Mais ce sont des dommages qui sont minimes, dans le sens que le plat a tout à fait sa stabilité. Ce quelques trous, ça ne dérange pas, dans la mesure où les insectes ne sont certainement plus là. De cela, naturellement, il faut être certain. Mais à partir du moment où ils ne sont plus là, les dommages qu'ils ont faits sont petits. Il n'y a pas besoin de restaurer des dommages, simplement parce que les dommages sont là. Il faut restaurer les dommages qui posent un problème de stabilité de l'objet.
Et ce livre, il va être à nouveau mis à la disposition du public, ou bien il restera un exemplaire qu'on ne pourra pas consulter?
Non, en principe, alors ça dépend d'une institution à l'autre. Mais dans le cas de cette institution, c'est une bibliothèque universitaire, ils le mettent à disposition du public, bon, pas dans la grande salle de lecture, mais dans la salle des manuscrits, des livres rares et précieux. Donc le taux de consultation est quand même un taux de consultation qui est très très bas et on peut restaurer en tenant compte du fait que le livre est peu utilisé. Et puis on peut, dans ces départements, on applique aujourd'hui aussi une consultation qui est très soigneuse. On utilise par exemple des coussins en mousse qui limitent l'ouverture du livre, ce qui fait que les structures portantes du livre, les nerfs, la couture sont pas trop sollicitées. Et bien sûr, on ne peut pas les photocopier pour ne pas les forcer et les mettre à plat sur un photocopieur. Il y a eu beaucoup d'évolutions sur ce plan-là aussi. Au début de mon travail, il y a 20 ans, il y avait quelques rares conservateurs de manuscrits archivistes qui pensaient à la conservation. Beaucoup ne pensaient que à rendre accessibles les textes, à les classifier, à faciliter le travail du lecteur, mais ne pensaient pas à l'aspect de la matérialité du livre et en fait que la consultation est certainement un des plus gros facteurs d'altération.
Andrea Giovannini, là on est entouré de parchemins, de manuscrits, d'ouvrages anciens hein, dans votre atelier. Quel est l'intérêt de restaurer de tels documents? C'est de les rendre immortels ou bien c'est de prolonger leur durée de vie?
Non, que l'immortalité soit une illusion, je pense que toute personne qui réfléchit un minimum arrive à cette conclusion. Pourtant, on se comporte souvent comme si cela était possible. Il y a une espèce d'illusion que la technologie puisse tout résoudre. En fait, il y a des grandes lois de la nature qui nous dépassent de beaucoup et qu'on ne peut pas modifier. Et toute matière est sujette à altération. Il y a un cycle de destruction qui est indispensable pour que la création se fasse. Les montagnes se détruisent petit à petit. Il n'y a aucune raison que les livres, les documents ne se détruisent pas. Et cette pression naturelle pour que, dès qu'il y a une humidité suffisante, les moisissures s'installent, se développent et détruisent le papier. Toutes les matières, les moisissures savent tout détruire, grâce à Dieu, parce que c'est ce qui nous sauve. Les insectes ont aussi un pouvoir de destruction immense. Il y a une pression de la nature sur l'objet qui est extrêmement élevée. Et la conservation est une œuvre contre nature, opus contra natura. Tout ce qu'on peut obtenir d'ailleurs, c'est une espèce de sourcil. Alors si dans 10 000 ans, les documents principaux, les documents importants que nous conservons sont encore là, du point de vue de la nature, c'est un rien, 10 000 ans, c'est un instant. Et de notre point de vue, de notre culture, c'est un énorme succès de pouvoir conserver des documents aussi longtemps. Alors il y en a qui certainement ne vont pas durer 10 000 ans parce que leurs processus endogènes sont extrêmement rapides. Là, il y a la question du support de remplacement qui devient très importante. Un papier du 19e siècle, il n'a pas une espérance de vie millénaire, certainement pas. Alors qu'un parchemin, il l'a. C'est un privilège, il faut le dire, c'est un privilège immense dans le monde d'aujourd'hui de travailler avec une telle perspective temporelle, de reprendre des objets quand même assez régulièrement entre les mains des objets qui ont 1000 ans. Dans une époque où tout est à court terme, tout dans le provisoire et tout doit aller vite, nous on regarde les cirques, on doit aussi faire vite parce qu'on attend de nous qu'on soit aussi rentable que possible. Mais quand même toujours avec une priorité pour le respect de l'objet. et pas une priorité pour une rentabilité aux frais de l'objet. Ça ne peut pas exister. Là, il y a un fondement éthique de notre travail où je refuse de faire un travail que je pense peut être nuisible pour l'objet.
Mais Andrea Giovannini, pourquoi c'est important de restaurer des livres anciens, des manuscrits, des parchemins? Parce que ça coûte cher. Et puis les gestionnaires vont vous dire qu'aujourd'hui, on n'a pas l'argent pour ça. On n'a plus l'argent pour ça.
Quelque part, quel est le fondement? Je fais une petite digression, mais quel est le... Pourquoi est-ce que je dédie ma vie, pour professionnel en tout cas, pour conserver des biens culturels écrits et imprimés? Quelle est la justification? Est-ce que ça a un sens, ce que je fais? Je crois que oui. Fondamentalement, je crois que ce que je fais est maintenir notre identité culturelle. Et notre identité culturelle est un fondement pour qu'on ne soit pas manipulable, pour qu'on ne soit pas à la merci de la première idéologie venue ou de la première spéculation venue. On l'est déjà suffisamment comme ça. Et les peuples desquels on a détruit les racines, donc, ce qui est malheureusement arrivé dans l'histoire pour quelques peuples, sont des peuples qui souffrent énormément, qui ont énormément de peine à s'orienter. Et je crois que même l'homme de la rue qui ne sait pas grand-chose des parchemins, qui ne saurait jamais les lire, bénéficie du fait que ces parchemins existent. Donc qu'ils soient là, qu'ils soient conservés, qu'ils tracent l'histoire de ce que nous, on a été il y a 1000 ans, il y a 1500 ans ou il y a 500 ans, et qui font que nous sommes dans une suite cohérente de développement culturel et pas simplement dans un assemblage qui ne suit que les lois du hasard. Je pense que cette dimension-là est très très importante.
Aujourd'hui, un jeune homme intimidé demande conseil à l'archiviste de service dans la salle. Il désire entreprendre pour son père malade sa généalogie familiale. La rigidité de la salle des inventaires lui voûte légèrement les épaules, plus qu'à l'ordinaire peut-être. Il ose à peine regarder dans la direction qu'on lui indique, reste gauchement accroché à son cartable de cuir marron. L'archiviste parle tout bas, prend un registre derrière lui et du bout des doigts, suit les lignes imprimées où sont inscrits des numéros précédés d'une lettre majuscule. Puis, doucement, il amène le jeune homme près de la plus longue travée où sont rangés les registres. Arlette Farge, le goût de l'archive.
Des forums thèmes consacrés aujourd'hui aux archives, Christophe Canu, et vous aviez envie, à ce moment précis de l'émission, de nous proposer le portrait du passionné d'archives type.
Alors on va se rendre à nouveau aux archives cantonales vaudoises. Tout à l'heure on était dans les stocks, dans les sous-sols, dans les compactus, et puis là on change d'étage, on va dans la salle de consultation des archives, et c'est un passionné d'archives, Loïc Rochat, qui m'accompagne, et tout d'un coup... Devant nous, on aperçoit l'archétype du chercheur passionné qui est particulièrement perplexe.
Bonjour monsieur. On vous observe depuis un petit moment là.
Oui.
Et puis on se dit que vous êtes en train de chercher quelque chose, mais que vous ne trouvez pas.
Écoutez, oui, mais quand on cherche quelque chose, on commence souvent par ne rien trouver.
Parce que là, vous vous grattiez la tête, par exemple. C'est-à-dire que vous avez pris un document...
Voilà. Et ce document est écrit par un juriste, et je faisais le constat suivant, sans doute gratuit, que chez les juristes, il n'y a jamais le nom des personnages, mais uniquement des extraits de loi. Et moi, je cherche désespérément un individu sur lequel j'ai peu d'informations. Et comme cet individu était responsable du cadastre, voilà que je trouve un ouvrage intitulé « Le cadastre vaudois au XIXe siècle ». Et je me suis dit, ben, ils parleront sans doute de la personne qui m'intéresse. Eh bien non, il n'y a que des articles de loi et aucun nom d'individu. Donc il n'y a vraiment plus d'illusions à se faire sur la justice. Ou sur les juristes en tout cas. Voilà.
Vous travaillez sur quoi vous ?
En ce moment, sur des articles destinés au dictionnaire historique de la Suisse, qui est un des grands travaux qui se font actuellement au niveau national, et puis qui fait que pour tous les individus en tant que tels, dans la mesure où ce n'est pas des personnes sur lesquelles il existe de grandes monographies, eh bien on est forcé de passer aux archives cantonales.
Donc vous êtes historien, vous ?
Moi, je suis archéologue, mais il se trouve que j'avais aussi fait de l'histoire, et je me suis retrouvé dans le coup, quoi.
Puis vous passez vos journées, comme cela,
ici ? Non, je viens de temps en temps ici, quoi. C'est pas mon... C'est une activité tout à fait accessoire. J'en fais, je sais pas, moi... C'est très irrégulier. Je viens ici 2 jours tous les 3 mois, quoi.
Il y a une date butoir, non ?
Oui, alors naturellement, il y a des délais pour la réédition de ces articles. Mais disons que les modifications de délais s'obtiennent facilement. C'est vrai que c'est un travail assez pénible dans la mesure où il faut venir s'enfermer ici. Et puis, souvent, on ne voit pas la solution au problème immédiatement, quoi. Alors ça... Il faut prendre son courage et venir ici, mais je pourrais pas faire ça comme métier, disons. Alors, de temps en temps, c'est vrai, on voit des choses intéressantes. Moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est l'importance d'une certaine petite noblesse dans ce canton qui, jusqu'à la Révolution française, semble posséder tout et s'y cramponner par le biais d'alliances au niveau matrimonial. J'entends vraiment, il y a un certain nombre de familles qui ont le pouvoir dans ce canton, et on est étonné, dans un pays où la noblesse n'a plus cours, de savoir le pouvoir qu'elle détenait jusqu'à la Révolution française. Alors je ne sais pas ce qu'il en est dans les autres cantons, mais je suis étonné. Et puis c'est vrai que ces gens-là, en plus, travaillaient pour Berne, soit qu'ils étaient les complices de Berne, soit qu'ils allaient faire les mercenaires pour Berne. Et alors ils amassaient des fortunes considérables en plus. Alors c'est des choses que j'ai découvertes en faisant ces quelques recherches. Et j'imaginais pas qu'il pouvait y avoir, tout comme peut-être dans les campagnes anglaises, quand on voit tous ces châteaux, une telle noblesse chez nous, à un point tel que ce film Barry Lyndon, là, qui raconte l'histoire d'un hobereau à travers l'Europe à la fin du XVIIIe siècle, eh bien, elle pourrait être l'histoire d'un vaudois, d'un jeune de famille noble vaudoise. Alors, moi, c'est le plaisir que j'en tire, quoi, c'est de faire une sorte de tourisme historique, et puis de découvrir une facette que je ne connaissais pas de notre pays, quoi.
Donc ce n'est pas uniquement une corvée de venir ici.
Alors j'entends, c'est pas uniquement une corvée, mais c'est vrai, ouais, il faut prendre des notes, il faut les mettre à jour. Moi je suis pas le type à me promener avec mon portable. Et alors après, c'est du travail de bénédictin, disait-on par le passé. Mais bon, moi, je me serais difficilement vu bénédictin de profession, mais bénédictin occasionnel.
Je peux vous demander juste de vous présenter ?
Écoutez, moi je m'appelle Emmanuel Abtel, et puis je travaille à l'Institut d'archéologie. C'est donc bel et bien occasionnellement que je fais de l'histoire. Vous allez perdre votre latin, parce que je ne trouve pas ce que je cherche en plus. Les cotations... Elles sont très difficiles à intégrer, c'est impossible à apprendre par cœur. C'est une. Alors, heureusement, ici, il y a du personnel compétent, et des gens très dévoués qui, si on intercepte M. Favé, mais maintenant, il nous tourne le dos, il va éclater de rire en disant mais ça coule de source, c'était à tel endroit. C'est inutile. Thank you.
signalement de Gras de Lapinède. Il est âgé de 17 ans, haut de 5 pieds moins 1 demi-pouce, portant de grands cheveux châtains bruns, le col un peu court, le visage plein, picoté de petites véroles, ayant les yeux chargés et un peu rouges, la vue faible, le nez un peu gros, et à côté à droite plusieurs couleurs de petites véroles, la bouche assez bien faite, les lèvres un peu épaisses, vermeilles et bien bordées, vêtu d'un habit de droguet de laine couleur de pêche vineuse, avec un bouton de cuivre, une veste de droguet de soie noire doublée de toile blanche, une culotte de panne noire. Tiré de « Le cours ordinaire des choses dans la cité du XVIIIe siècle », Arlette Farge.
C'est fabuleux, Christophe Canu. À écouter ce tout petit extrait de texte, on se rend compte que les mots, les habitudes vestimentaires, la façon de décrire les gens, tout ça nous plonge absolument immédiatement dans une autre époque, une époque retranscrite par une grande spécialiste en la matière.
C'est Arlette Farge, elle est historienne, c'est une des grandes spécialistes du XVIIIe siècle et c'est une des premières à avoir écrit et réfléchi sur l'archive, notamment dans son livre intitulé « Le goût de l'archive ». Alors ce qui m'a plu chez elle, c'est qu'elle a vraiment une sensibilité particulière dans son écriture. En premier, elle réécrit complètement les archives qu'elle va dénicher dans des salles où personne ne s'est rendu avant elle. Et puis les documents sur lesquels elle s'appuie, ce sont des documents que personne n'a évoqués jusqu'ici. C'est notamment le cas d'une partie des PV des commissariats de police.
Grâce à ces manuscrits, que j'avais d'ailleurs eu la chance d'ouvrir pour la première fois, parce que en fait, à cette époque-là, les historiens ne s'occupaient pas tellement de ce genre de sources qu'ils appelaient des sources mineures ou des sources de peu, des sources qui concernaient les petites gens. Eh bien, les ayant ouverts pour la première fois, j'avais eu une telle passion rapidement pour ces documents, et je me suis si vite attachée non seulement à leur contenu, mais à leur forme, et puis... En plus, il disait enfin ce que des gens peu lettrés, peu cultivés, qui savaient sans doute rarement écrire et lire, pouvaient dire. Et grâce à ces témoignages dans les procès-verbaux de commissaires de police, il y avait toute une vie qu'il était possible de retracer. Après, je crois que oui, j'ai attrapé le virus, si j'ose dire. Je suis devenue addict, effectivement, parce qu'elles m'ont toujours offert au fil du temps un nombre de sources et de renseignements sur une population sur laquelle on ne savait rien, en somme.
Alors, il faut parler de votre rencontre avec les archives avant toute chose, Arlette Farge. Mmh. En fait, c'est ce que vous écrivez, hein, quand un historien se retrouve face à des archives. Ce sont les notions de démesure, d'immersion, voire de noyade qui surgissent.
D'abord, il y a deux choses qui se passent. Elles sont si nombreuses qu'on ne sait pas lesquelles choisir. Elles sont si étranges, à la fois familières, parce que ça rappelle des choses qu'on peut connaître encore aujourd'hui, mais aussi elles sont si dépaysantes, parce que c'est vraiment un autre monde, que c'est vrai qu'on est absolument débordé par leur flot. C'est pour ça qu'il y a des métaphores marines dans le goût de l'archive, parce que c'est sûr qu'on dirait des fonds dans les océans, des fonds sous-marins. Alors il y a ce premier aspect d'être un peu débordé, puis il y a aussi l'excitation de penser que ces archives-là, voilà, ça y est, on tient grâce à elles le reflet du réel. Et ça, c'est un piège, parce que aucune archive ne dit vraiment la réalité, bien sûr. Donc l'historien, il peut être très séduit, comme moi je l'ai été, enfin je le suis toujours, par l'archive et ce qui est raconté là, et le contenu des paroles qui sont dites, des injures prononcées, qui sont retranscrites par le greffier. Mais après, après il y a un deuxième travail beaucoup plus long qui est celui de l'interprétation. Et qu'est-ce qu'on en fait, et pourquoi, et pour qui, et à quoi ça sert, enfin. Donc ça fait plein de problèmes les uns derrière les autres, en fait.
Et puis après, donc la recherche proprement dite et la mise en ordre, on va dire, il vient le temps de l'écriture, mais l'écriture pose la question de comment conserver une certaine vitalité de l'archive.
Oui, c'est vraiment extrêmement difficile, en effet, de ne pas les faire mourir une deuxième fois, parce qu'on est devant des gens morts depuis longtemps, qu'on a plus ou moins, c'est le rêve de l'historien, envie de ressusciter. Et il faudrait pas que par une écriture terne ou académique ou, je sais pas, mobilisée par des intentions sévères, d'érudition classique, on fasse retourner ces gens soudain mis à la lumière une deuxième fois dans l'obscurité de propos beaucoup trop sérieux, entre guillemets. Je veux dire, c'est pas qu'il faut pas être sérieux en histoire, mais je pense que une des deuxièmes réflexions très très importantes devant des manuscrits de cette sorte ou devant des sources si vivantes, parce que c'est vrai qu'elles sont d'une vie étonnante, il faut que l'écriture soit à leur mesure. Et d'une part, il ne faut pas être anachronique, il ne faut pas tout d'un coup penser que ça ressemble vraiment à aujourd'hui, et il faut donc trouver des mots pour le dire. Et puis aussi, il faut... Enfin, moi, j'ai toujours essayé de travailler sur le rythme des phrases, le battement du temps à l'intérieur des phrases, de la syntaxe, pour que ça puisse résonner un peu comme moi, je m'imagine, être la société du XVIIIe siècle. Donc, il y a une part de subjectivité que j'assume volontiers. Parce que je crois qu'aucun historien ne peut dire qu'il écrit la vérité. Donc, comment dire, une de mes intentions, c'était de travailler énormément l'écriture, parce que je crois que le travail de l'écrivain, c'est aussi le travail, pardon, vous voyez, le travail de l'historien, c'est aussi un travail d'écrivain. Mais ça, bon, c'est vrai que j'ai eu la chance de travailler avec Michel Foucault quelques années, bon, avant sa mort. C'est sûr que de lui, j'avais énormément appris sur ce qu'était l'écriture, et c'est ce qu'il considérait comme les mots qui devaient transporter comme ça l'histoire au lecteur.
Je serais embarrassé de dire ce qu'au juste j'ai éprouvé lorsque j'ai lu ces fragments et bien d'autres qui leur étaient semblables. Sans doute l'une de ces impressions dont on dit qu'elles sont physiques, comme s'il pouvait y en avoir d'autres. Et j'avoue que ces nouvelles, surgissant soudain à travers 2 siècles et demi de silence, ont secoué en moi plus de fibres que ce qu'on appelle d'ordinaire la littérature, sans que je puisse dire aujourd'hui encore si m'a ému davantage la beauté de ce style classique, drapé en quelques phrases autour de personnages sans doute misérables, ou les excès, le mélange d'obstination sombre et de scélératesse, de ces vies dont on sent, sous des mots lisses comme la pierre, la déroute et l'acharnement. Michel Foucault, La vie des hommes infâmes.
À vous lire, en fait, on se rend bien compte que l'archive, et derrière l'archive, l'histoire, est quelque chose de vivant. Or, a priori, pourtant, l'archive est froide. Elle renvoie à un ordre, à une précision clinique ou mécanique. Et puis, par votre écrit, l'archive renvoie et monopolise tous les sens.
Oui, mais c'est-à-dire, faut dire que j'ai pas beaucoup de mérite quand même, parce que c'est vrai que si je travaillais sur des archives notariales ou, je sais pas, sur les archives des vaisseaux militaires pendant les campagnes de guerre de Louis XV ou des choses comme ça, je pense que ce serait peut-être encore plus difficile. Mais bon, je travaille en fait sur des conflits, sur des tout petits conflits, sur des incidents de rue, sur la sociabilité, le voisinage. Donc je travaille sur du matériau, j'allais dire, vivant. C'est vrai qu'il est extraordinairement vivant, c'est un matériau sensible. On appelle ça d'ailleurs des archives du sensible. Et ce qui redouble d'ailleurs le handicap, parce que, comment dire, comme je suis une femme, bien, effectivement, on m'a souvent dit que j'avais choisi ces archives-là parce que, comme j'étais sensible et que c'était des archives du sensible, eh bien, ça, c'était plus facile, ou bien parce que, effectivement, face à ces archives, elles peuvent produire et provoquer de l'émotion, et que, du coup, voilà, il y avait une espèce de, comment dire, c'est pas une gêne, mais une espèce de réticence par rapport au fait que j'étais une femme et que je me lançais justement dans des archives particulièrement, j'allais dire liquides, mais c'est-à-dire, oui, sensibles. Mais bon, ça, moi, je ne sais pas, j'ai peut-être pas le lieu de le dire ici, mais j'ai assumé volontiers, j'ai pas, voilà, ce débat-là, femme, émotion et tout ça, je crois que, bon, on a essayé d'en faire un peu, voilà, de lui tordre le cou. Mais quand vous dites visuel, oui, c'est vrai, moi, je vais vous dire, d'abord, d'ailleurs, je m'aide énormément du cinéma. Je suis très, très cinéphile. J'adore le cinéma, rien que... Parce que ça m'aide énormément, parce que voyez, chaque anecdote racontée dans les archives au XVIIIe siècle, pour moi, je dis toujours, je vois en couleur, mais c'est vrai. Je vois d'abord parce que tout y est décrit très minutieusement, aussi bien les visages sont décrits, la couleur des cheveux, les jupes, les jupons, tous les habits de métier des hommes, etc. Donc moi, je vois, je suis très visuelle et je vois comme une scène de film. Et je vois en couleur, pour moi c'est pas mort, donc j'ai pas de mérite au fond, parce que je comptabilise pas, comme je vous disais tout à l'heure, je sais pas, le nombre de grains de blé dans je sais pas quoi. Je suis sur un matériau tellement changeant, tellement kaléidoscopique, si on peut dire comme ça, que ben voilà, je suis avec lui, je lui tiens compagnie, il me tient compagnie, puis j'essaie de produire de la vérité, ou du moins de la véridicité, puis de produire de l'écriture avec, et que surtout, en fait, je vais vous dire, mon but, c'est que je crois qu'on connaît mal les siècles passés, on n'a pas bien appris à l'école, on a appris tous les événements les uns après les autres, mais la sensibilité des gens, ce qu'ils avaient dans la tête ou dans le cœur, pourquoi ils faisaient telle chose, pourquoi ils faisaient pas telle autre, qu'est-ce qu'ils voulaient, quelles étaient leurs visions du futur, leurs imaginaires. Moi, je pense que on n'y a pas encore énormément travaillé. Donc, c'est vrai que moi, je me suis attelée à cet âge, et puis maintenant, voilà, je trouve ça, je suis vraiment passionnée, quoi, je suis contente.
Oui, on l'entend, hein, mais ce qui est étonnant, en fait, c'est que cette sensibilité, ces visages, ces figures que vous faites apparaître, ils sont tirés d'archives établies à partir de rapports de police.
Oui, alors donc ça c'est vrai, on me dit souvent que ce sont des archives qui n'ont pas la pureté d'autres types d'archives. Alors, d'une part, je répondrais que aucune archive n'est pure. Une archive de notaire, un testament, je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple, mais même les archives d'État, les archives diplomatiques ou les conseils du roi, les archives des conseils du roi, c'est pas des archives pures. Toute archive a un statut, rentre dans un contexte, obéit à un pouvoir, à tel ou à tel type de pouvoir. Bon, les miennes, effectivement, si je peux me les approprier en disant les miennes, elles viennent et elles sont énoncées c'est pas par n'importe quel pouvoir, c'est par celui de la police. Donc effectivement, c'est la raison pour laquelle j'ai jamais voulu travailler sur la grande criminalité. En fait, je travaille pas sur la criminalité. J'ai toujours choisi les incidents les plus menus, parce que vraiment, si je vous les citais, ça va de la morsure de chien au pot de chambre reçu sur la tête, parce qu'au 18e, on évacuait les ordures par les fenêtres, donc ça arrivait souvent, etc. Donc ce sont des choses qui pour moi sont proches d'un certain réel. J'ai jamais travaillé sur les parricides, sur les adultères, sur les crimes de sang, etc. Parce que je me disais que j'allais voir des figures déjà autres, et des modes de défense aussi tout à fait différents. Tandis que là, pour des tout petits incidents de rue, enfin, comment donner l'exemple? Je pense à un film, justement, je pense au film de Depardon, les deux films qu'il a fait justement dans les tribunaux de police pour les gens pris en flagrant délit. Bon, il fait ça pour notre siècle, aujourd'hui. Il a fait ça pour la fin du 20e, puis il continue pour le 21e. Bon, ben, je le fais pour le 18e, vous voyez. Donc, du coup, d'accord, c'est des archives de police, mais c'est vraiment le tout petit incident. Et autour de ce petit incident, il fonctionne comme un observatoire social. Il me permet d'étudier autour tout ce qui se passe, toutes les relations sensibles qu'il y a autour, toutes les inimitiés, tous les conflits, mais aussi tous les amours, tous les modes de fréquentation, de badinage, je sais pas comment vous dire, parce qu'en plus, au 18e, c'est un siècle qui est vraiment joyeux, qui est vraiment fervent, qui est vraiment enthousiaste. Et donc, même derrière un incident, qui demande qu'on aille vers la police, eh bien, on trouve une vie assez étonnante et une vie fervente et enthousiaste derrière et solidaire.
Oui, c'est cela en fait ce que je voulais souligner. Ce n'était pas par rapport à la pureté ou pas de l'archive, c'était plus par rapport au fait que, a priori, un rapport de police, c'est quelque chose d'assez froid. On va à l'essentiel. Et puis là, vous arrivez à en tirer une vitalité assez incroyable.
Oui, mais il faut dire aussi que, au XVIIIe siècle, si vous voulez, le mode d'interrogatoire, il est beaucoup plus souple et il est beaucoup plus sur le mode de la conversation qu'aujourd'hui. Il est moins, si vous voulez, formaté, si on, je peux employer cette expression qui n'est pas très jolie, qu'aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'on croit lire, bon, bien sûr le commissaire interroge, les témoins parlent, mais ce sont des tout petits récits. Ils parlent, ils donnent des tas de détails, et comme si voilà, c'était un mode accoutumé de conversation. Et le système donc de questions-réponses, un système beaucoup plus souple que celui, en tout cas pour ce que j'ai pu voir aujourd'hui, ou même puisque j'ai assisté aussi au palais de justice à des séances de flagrant délit pour voir comment ça se passait. Et c'est au 18e, c'est pas encore, on n'est pas encore dans une administration rigide, on n'est pas, il y a pas de code pénal, il y a pas de code civil, Napoléon n'est pas encore là, donc on est dans un mode de conversation du coup, et ça donne une richesse de documents plus grande, vous voyez, de détails en tout cas donnés beaucoup plus grands. Ce sans quoi il y aurait pas, je crois pas que dans les trucs de police aujourd'hui, il y ait les couleurs des habits. C'est pour ça que je dis que je vois aussi.
Paris, 1er février 1738, le nommé Collet. Monsieur, je me fais l'honneur de mettre la main à la plume sans avoir l'honneur de vous connaître pour vous faire savoir qu'il y a un homme de nos voisins convulsionnaires qui se dit prophète de Jésus-Christ et qui, malgré sa dévotion, ne laisse pas toutes les nuits de jurer et de sacrer et même de vouloir tuer sa femme. C'est un homme qui s'en va pendant des 15 jours, un mois, sans savoir où il va, voyant que sa femme ne veut pas le faire renfermer dans un Bicêtre par la tendresse qu'elle a pour lui, quoiqu'elle risque beaucoup avec lui. C'est pourquoi, monsieur, je crois que la religion m'oblige de vous donner avis. Sa demeure est rue Saint-Nicolas du Chardonnay, quartier Sainte-Victoire, la première fruitière à gauche, son nom est Collet, anonyme. En marge, il dit avoir été guéri d'une enflure et paralysie. Tiré de Le cours ordinaire des choses, dans la cité du XVIIIe siècle, Arlette Farge.
Vous écrivez également que l'archive naît du désordre.
Oui, je pense que non seulement les archives que je consulte sont des archives nées du désordre, mais en plus que ce désordre qui est là, qui est patent et qui fait partie du cours ordinaire des choses au 18e, eh bien, si je dois le restituer, il faut pas que je l'aplatisse. Il faut que ce désordre, il est l'acteur social en un sens. Et donc, pour moi, j'aime travailler avec les ruptures, les paradoxes, les contradictions, les discontinuités, et montrer justement qu'on n'est pas, voyez comment dire, qu'on va pas de 1720 à 1789 en se disant tous les jours, chouette, on va vers la révolution. Pour moi, ça veut rien dire. Et nous, historiens, on n'a pas à se dire, ah, il y a une émeute en 1724, donc c'est sûr, dans 60 ans, c'est bon, on aura la révolution. Donc, en travaillant comme ça, je me donne une méthode, j'essaie même d'oublier qu'il y a eu la révolution, pour me donner la méthode, une méthode qui permette que je puisse restituer la vie au jour le jour, qui n'a jamais pu prévoir la révolution. Et donc, si l'archive est née du désordre, et que en plus le désordre est présent, l'écriture que je veux employer doit restituer aussi un semblant de ce désordre-là.
En même temps, vous cherchez à garder donc un semblant de désordre, et en même temps, vous essayez, je ne sais pas, peut-être l'expression est trop forte, mais de rendre hommage à ce peuple muet qui s'exprime à travers vos archives. Vous essayez de le faire de manière qui ne soit pas caricaturale, parce que c'est toujours le risque de présenter le peuple de manière caricaturale quand on en parle.
Ben oui, vous avez tout à fait raison, c'est la chose la plus difficile, surtout je crois en ce moment, peut-être dans notre période maintenant, la chose à laquelle je me confronte, qui est la plus difficile, c'est de ni tomber dans le misérabilisme, ni dans la naïveté du « le peuple est forcément bon et gentil », ni dans le voyeurisme, parce que ça peut être avec, j'ai des archives qui sont souvent, qui pourraient permettre ça, et c'est un fil tendu, entre hommage peut-être, en tout cas... façon de comprendre et d'entrer dans la vie de ceux qui nous ont précédés, parce que bien des choses ressemblent aux nôtres. Et en même temps, toujours conserver ce point de tension pour pas devenir idyllique et un peu, voyez, enfin comme vous le disiez, c'est le piège effectivement de parler du peuple. Et si je dis que c'est d'autant plus difficile maintenant, c'est que il y a encore une dizaine d'années, on travaillait assez facilement sur les classes sociales et même les sociologues travaillaient assez facilement sur les rapports de classe. Mais comme vous le savez, il y a même un vocabulaire qui a disparu. On ne parle plus de classe sociale, on ne parle plus de lutte des classes, on ne parle plus de... Enfin, tout ce vocabulaire des idéologies marxistes maintenant repoussées. Et du coup, c'est extrêmement important de trouver un autre vocabulaire qui puisse restituer ces vies, puisqu'elles ont existé, et qui, en même temps, ne sombre pas dans une espèce de, comment dire, j'allais dire Zola, encore Zola, c'était très très bien, mais du Eugène Sue à la petite semaine, si vous voulez, encore que j'aime beaucoup Eugène Sue, donc je ne sais pas quel exemple prendre. Mais, donc c'est vrai, c'est sur un fil tendu, d'autant que, voilà, à l'heure actuelle, nous, on dit tout le temps en France qu'il n'y a plus de classe ouvrière, alors qu'il en reste 6 millions, etc., donc... Et en plus, elle a changé, effectivement. Donc, c'est un fil très tendu, mais tant mieux que ce soit difficile. Tant mieux qu'il y ait des écueils. Et moi, je suis contente. Ça m'aide, enfin, je suis contente. Je veux dire, ça m'aide beaucoup à réfléchir parce que j'ai pas envie de rester dans une atmosphère désuète ou erronée et que je pense que l'histoire, c'est un objet qui sédimente année après année au fur et à mesure des réflexions qui se font philosophiquement, sociologiquement et politiquement.
Je vais citer un extrait de votre ouvrage d'entretien, « Quel bruit ferons-nous ?»« Les classes populaires, moins habiles à manier l'écrit, n'ont point pour autant vécu sans se représenter elles-mêmes. L'archive possède des ressources en ce domaine, il faut se donner la peine de les chercher. Trop facile de ne trouver en elles qu'une somme cumulative d'attitudes si on ne cherche point à entrevoir par quel système de rationalité ces attitudes ont été prises. »
Ce que je voulais dire par là, c'est que très souvent, on accorde à l'idée de peuple à une idée de justement de tohu-bohu, de paroles dites très rapidement, sans dénuées de pensée. Au XVIIIe, de toute façon, c'est ce que les élites, et même les philosophes, même Voltaire, malheureusement, pas Diderot, pas Condorcet, mais certains philosophes aimaient à dire, c'est-à-dire que le peuple était inepte. Et en fait, ce que je trouve qui me paraît intéressant et qui est très visible dans les archives, ce sont les systèmes de pensée, effectivement, que détiennent ces classes défavorisées et leur forme de rationalité. Donc, pour travailler là-dessus, moi, j'ai travaillé sur deux types de sources pour expliquer, pour éclairer mieux comment on peut arriver là. J'ai travaillé à la fois sur les mauvais propos, c'est-à-dire les gens qui, dans la rue, disaient des choses contre la politique du roi ou contre les événements qui se passaient ou contre les guerres sur les frontières et qui étaient embastillés pour avoir été entendus par des observateurs de police. Donc, avec ces archives des mauvais propos, j'ai pu constater qu'est-ce qu'ils disaient, donc qu'est-ce qu'ils pensaient, quelles étaient leurs opinions politiques, même si le mot n'existait pas à l'époque. Et puis le deuxième source sur lequel je pouvais travailler, c'était aussi toutes les lettres qui de dénonciation qui étaient envoyées au commissaire de police très souvent, sur lesquelles ils pouvaient recueillir aussi les formes de vie, les formes de pensée, les croyances religieuses, les éthiques en fait. Et donc voilà, pour moi, c'est certain que ça m'intéresse pas de travailler le peuple au sens de montrer des gens plus ou moins dégénérés, criant dans la rue, une fourche sur le dos, un couteau entre les dents. Ça m'intéresse de les restituer tels qu'ils furent, c'est-à-dire essayant de penser leur journée, leur lendemain, et qu'ils influencent énormément les événements.
Juillet 1756. La demoiselle Nanette Sauvier, âgée de 28 ans, blanchisseuse demeurant avec sa mère rue Saint-Gilles au Marais, m'a déclaré que la nommée Barbier, loueuse de carrosses, demeurant aussi dans la rue Saint-Gilles, lui avait fait confidence, il y a environ 2 ou 3 mois, que le nommé messager, loueur de carrosse demeurant rue des Tournelles, avait coupé un morceau de la robe d'une dame pendant qu'elle montait dans son carrosse à l'entrée de la rue des Deux-Ponts, île Saint-Louis. Il faut l'envoyer à Bicêtre. Tiré de Le cours ordinaire des choses dans la cité du XVIIIe siècle, Arlette Farge.
Arlette Farge, pour conclure, j'ai envie de vous demander si, finalement, l'archive ne risque pas d'être détruite par l'archive. Parce que, je vous cite encore, hein, vous dites, dans cet ouvrage d'entretien, quel bruit ferons-nous ? Maintenant, j'ai la crainte d'un certain engouement pour ce fameux goût de l'archive. Il faut vraiment réfléchir à l'engouement pour le témoignage, qui parfois cache notre incapacité à fabriquer de véritables analyses qui pourraient non être globalisante, mais donner du sens à la notion de collectif.
Oui, mais c'est vrai, c'est parce que bon, quand j'ai commencé, c'était vraiment presque personne travaillait comme ça sur les mots, les paroles singulières recueillies comme ça dans des rapports de police. Et puis petit à petit, il est apparu tout ce qu'on voit dans les médias ou dans les journaux, soit la télé-réalité, bon, c'est une chose, soit dans les grandes pages dans les journaux, paroles de grévistes, paroles d'ouvrières, paroles de femmes, paroles de prostituées, etc. Et je m'aperçois aussi que tous les efforts du travail de mémoire ou c'est de rassembler un nombre d'archives absolument impressionnant, je sais pas, pour tous les écrivains, même si c'est un gribouillis sur un papier qu'ils ont fait dans un restaurant, on va aller mettre ça pieusement à l'abbaye d'Ardennes, près de Caen, à Limec. Bon, et moi tout d'un coup je me suis dit, mon Dieu, mais c'est voilà, on va mourir sous l'archive, et de toute façon on saura jamais les interpréter, l'exhaustivité c'est de la folie. Puis En plus, si c'est pour que ce soit fondé sur un déficit d'analyse, si c'est que dans le monde on a trois fois par semaine des paroles de quelqu'un, comme c'est le cas en ce moment, ou je sais pas, d'un grand entrepreneur ou d'un compositeur de musique et tout, puis point à la ligne. Enfin, pareil, je sais pas, les cactus d'Europe Grillet, par exemple, qui ont été déposés récemment en archive à Limec, à l'abbaye d'Ardennes, dont je parlais tout à l'heure. Bon, ok, moi je veux bien, mais qu'est-ce que je fais moi avec les cactus? Moi, c'est fini, moi, ça m'intéresse plus. Moi, je m'intéresse les paroles que si on les interprète, on les analyse, on les compare, on les contredit, on les conforte, on se bat avec elles, on résiste à l'archive. Pour moi, on n'est pas là, soumis. Donc voilà, ça, c'est un mouvement d'humeur que j'ai dans ce livre, comme vous l'avez remarqué, oui.
Arlette Farge le dit plus que bien, Christophe Canu, notre époque croule sous les archives et sous les archives de tout type. Est-ce qu'on peut se dire qu'aujourd'hui on devrait tout conserver ?
Ben alors ça fait partie du mythe, hein. C'est ce qu'on a tendance à dire aujourd'hui. Avec la numérisation, on pourrait aujourd'hui potentiellement tout conserver. Et puis dans le même temps, avec Internet, on peut se dire que tout ce qui sera conservé sera mis à disposition du public, que le public pourra consulter toutes les archives qu'il désire. Et on poursuit cette réflexion avec Gilbert Couta, le directeur des archives cantonales vaudoises.
Alors, indéniablement, l'information circule plus vite, elle circule vers des groupes de plus en plus larges. C'est un accès Oui, sans doute plus démocratique, mais faisons attention avec cette notion, c'est quelle population a accès à l'informatique. Elle n'est pas acquise à tout le monde. Elle privilégie ceux qui ont une certaine aisance et ceux qui ont la culture. Elle laisse de nouveau de côté des gens qui n'ont pas les moyens de la payer. Et puis, faisons attention avec l'informatique. C'est un outil de diffusion pédagogique formidable. C'est sans doute un outil très rétrograde du point de vue de la conservation. Aucune pérennité informatique n'est attestée aujourd'hui. On travaille sur des temps très courts et un système informatique sur les 3-5 ans est amené à évoluer. Alors qu'avant, il fallait des générations de parchemin, traverser plusieurs siècles. Il y a eu le papyrus avant et la pierre. On sait que durée de vie au moins de 7000 ans, une pierre gravée. Vous pensez que l'informatique va nous assurer sur un support ou sur un environnement d'aujourd'hui 10 siècles de pérennité? C'est pas pensable. On travaille plutôt sur 10 ans, voire moins.
Donc vous opposez les deux, l'informatique aujourd'hui à l'archivage?
Non, je pense que l'archiviste doit vivre avec les phénomènes de société. On travaille selon d'autres conditions et avec des canaux de diffusion qui sont tout autres. Il ne s'agit pas d'être nostalgique. Simplement, dans ces politiques qu'on essaye de faire valoir, de numériser tout le passé, à la limite d'enfermer toute l'histoire de l'humanité sur informatique, sur Internet, c'est une hérésie parce qu'on supprime les conditions d'élaboration de cette information au profit simplement d'un confort d'accès, ce qui est formidable, je suis aussi un utilisateur, mais on ne respecte pas les conditions dans lesquelles ces documents ou cette information est élaborée. C'est aujourd'hui qu'on va vers ce qu'on appelle la dématérialisation de l'information, où c'est l'information qui est importante, mais avec l'informatique, on ne sait plus où elle se loge, cette information, et elle n'a plus besoin même de support pour s'exprimer, puisqu'elle peut être nichée sur un serveur, sur de la fibre optique, et on n'aura plus nécessairement une relation tactile. Et si j'ai même cette relation tactile, personne ne me dira le contenu du CD-ROM si je n'ai pas l'instrument. Alors qu'avant, je vous remets entre les mains un parchemin, vous avez une relation immédiate avec ce passé, et vous sentez à quelque part une épaisseur historique que vous ne donnera jamais un support qui est devenu tellement généralisé et uniforme qu'il n'a plus beaucoup d'intérêt dans le cadre d'une politique de conservation.
Mais vous avez mené une étude sur ce sujet, sur le public qui consulte les archives. Quel est le résultat? Est-ce que l'informatique n'a pas permis à un nouveau public de consulter les archives?
Alors, il a amené d'autres publics, parce que ce public peut être mieux renseigné à distance, grâce à ce qu'on peut afficher. Mais le niveau de prestation est devenu de plus en plus élevé, que la personne veut non seulement connaître le contenu des archives, mais veut surtout avoir l'image de tous les documents que nous possédons. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait mettre en ligne tout ce que vous voyez sur nos rayons. C'est un coût exorbitant, qu'il suffirait de presser un bouton pour accéder à une image, de mettre en relation tous les documents. Il faut imaginer ce que ça représente, non seulement comme performance technique, mais comme qualité d'analyse pour réunir tout ça. Donc il faut vivre avec cette réalité, il faut l'utiliser, mais ça ne peut pas se substituer à des pratiques d'avoir du temps pour lire, d'avoir des compétences pour déchiffrer, et puis surtout de travailler non pas l'individu en tant que tel, mais de toujours voir dans un périmètre large, dans un contexte. Et le problème, c'est que l'informatique ralentit peut-être les temps d'accès à l'information, mais on a de plus en plus de consommateurs d'informations qui ne savent plus trier dans cette information, qui l'accumulent sans pouvoir la hiérarchiser, et puis surtout, qui aimerait, sans se déplacer, avoir une information qui vient de tous horizons. Alors, c'est un fantasme formidable, mais c'est sans doute pas une réalité qu'on peut accepter. Et là, il faut remettre un certain nombre d'exigences liées à la consultation et à la conservation au centre du débat, puisque l'accès ne fera pas tout, ne fera pas l'intelligence de la personne, et surtout, sans fonction conseil, sans un environnement approprié, on risque d'aller vers des interprétations abusives. Et vous voyez, depuis la Corée, consulter des documents sur le canton de Vaud, vous ne pouvez pas assimiler une culture simplement à distance. Il y a tout un ensemble de phénomènes qui vous échappent. C'est comme si vous preniez une information hors contexte, elle est toujours liée à une culture, à un territoire, à des personnes. C'est pour ça que d'ailleurs on a très souvent des interprétations abusives dans les recherches généalogiques. Vous voyez très bien débarquer ici, comme ça nous arrive dans le tourisme estival ou automnal, des gens qui viennent de Nouvelle-Zélande et des États-Unis en disant « Mon parrain est un giron ». Puis vous lui dites « C'est un giron de Penelgeora ou d'Yverdon ». Qu'est-ce que vous voulez qu'il comprenne dans ces distances, lui qui vient des États-Unis? Il a simplement vu une relation par le nom en pensant qu'il fait partie d'office de sa famille. Donc il y a tous ces éléments qu'il n'est pas possible d'expliquer nécessairement sur un site à distance. Il faut sans doute et du temps et du contact pour refaire cette histoire des documents.
La télévision tuera-t-elle la radio? Eh bien, je n'ai pas un instant d'hésitation. Pour moi, tuera pas la radio, tuera.
Comment à l'avenir pour la Suisse en ce qui concerne les programmes?
Ah, il me semble que un programme continue.
Chers auditeurs, c'est le temps des vacances et de la nonchalance, c'est le temps de l'absence et le temps des moiteurs. À travers des vapeurs de soufre, l'an dernier au cœur du mois d'août, le monde marchait vers le gouffre sur des airs dansants d'un train fou. Sous le mur d'acier des frontières, la guerre, la haine et la mort, dans la lueur crépusculaire, tendaient lentement leurs ressorts. Adieu, chers auditeurs, c'est le temps des trompettes, le temps des galipettes, des foxtrots, des guinguettes, des photos d'amateurs. Le bonheur est chose fragile, je suis placé pour le savoir. Comme lui, la chanson de Gilles doit mourir ce samedi soir. C'était un oiselet fugace dans l'air, il va s'évanouir. Puisse-t-il laisser une trace amie dans votre souvenir? Bonsoir.
Dans ces forums thèmes qui seront certainement archivés, vous avez entendu Gilbert Couta, directeur des archives cantonales vaudoises, Arlette Farge, historienne, chercheur au CNRS et spécialiste du XVIIIe siècle, Emmanuel Abtel, archéologue et passionné d'archives, rencontré grâce à un autre passionné d'archives, Loïc Rochat, Andrea Giovannini, restaurateur d'archives à Lumino, au Tessin, Jean-François Bergier, professeur honoraire d'histoire et coordinateur du rapport Bergier, Urs Kellin, archiviste aux Archives sociales suisses à Zurich. Les lectures vous étaient proposées par Véronique Marty et Jean-Marie Félix dans cette émission signée Christophe Canu dans une réalisation de Bruno Seriba. La semaine prochaine, dans les forums thèmes, grâce à David Collin, nous accueillerons en grande pompe le très décoiffant et passionnant Antonin Artaud.
Espace 2, des copies de nos émissions au 026 323 24 24.
Si vous désirez en savoir plus sur notre émission, vous tapez sur votre clavier espace2.ch/lesforanthèmes. Vous nous écrivez à lesforanthèmes, tout collé, tout attaché, @rsr.ch ou à lesforanthèmes, Radio Suisse Romande, 40 avenue du Temple, 1010, Lausanne. Bonne écoute sur Espace 2.